Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 531 du podcast Jeune Actu. Alors, Mathieu, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, le 8e déjà dans la saison NFL 2022. À mes côtés, il le dodeline de la tête en rythme parce qu'il est vraiment devenu le roi du rythme, Grégory Richard. Bonjour, Grégory.
C'est important de préciser. Bonjour, Alain. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous.
On dit ça, on vous met dans la private joke, c'est parce que avant chaque enregistrement, on fait des claps, en fait, hein, qu'on essaie de synchroniser tous pour pouvoir avoir des pistes bien synchronisées. Et Grégory est maintenant devenu le roi du clap en rythme. Il nous l'a dit, maintenant, je suis islandais. Il a fait la demande. Donc,
bientôt Richardson dans l'introduction du podcast.
Grégory Richardson. Ouais. Raphaël Masmejean est là. Bonjour, Raphaël.
Salut, messieurs.
Comment tout va bien? Je ne sais pas si cette formule est correcte.
Pas totalement sûr, mais petit pont, comme on aime les faire en France, c'est beau. On est bien.
C'est vrai. Horaire d'enregistrement décalé pour cause de pont. Nous sommes bien, pas encore un podcast islandais, clairement. C'est parti donc pour le débrief de la semaine 8. Messieurs, on va varier un petit peu les plaisirs encore une fois, puisqu'on va parler de la division NFC Sud, dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, en dehors des Buccaneers, en fait, cette année. Et on va voir qu'il y a des équipes qui sont en train de leur passer devant. Évidemment, il s'est passé plein d'autres choses dans cette semaine, avec des Eagles qui ont confirmé, des Cowboys aussi, et des nouveaux quarterbacks qui sont arrivés. On évoquera un petit peu l'échange. Tiens, vous savez quoi? On va improviser, messieurs.
Oh non!
Quelle intro! Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this
is Today in New York. Comment je vais faire sans mon prompteur?
On va improviser, notamment parce que Raphaël l'a bien fait remarquer, j'ai assez mal écrit mon intro.
Il a dit ça?
Il a dit quelle intro. Et je pense qu'il a remarqué que je me perdais un peu dans mes notes, tout simplement parce que sur mes notes, en fait, c'est l'intro de la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris. On va commencer avec de l'actu, messieurs, parce que Roquan Smith s'en va à Baltimore. On va peut-être dire un petit mot là-dessus en deux minutes. Les Bears et les Ravens sont arrivés à un accord. AJ Klein fait partie de l'échange. Et il arrive du côté de... Ah, Raphaël a fait la moue, genre, bon, on s'en tamponne d'AJ Klein.
Ça change tout.
Arrive du côté de Chicago. Et puis, second tour de la draft et cinquième tour de la draft pour Chicago. Est-ce que c'est un renfort immédiat de qualité, Raphaël, pour les Ravens, quand même?
Oui, c'est un renfort immédiat de qualité, ça c'est certain. On est quand même sur un middle linebacker niveau all-pro qui tutoie les meilleurs à son poste. Donc l'impact risque d'être immédiat, c'est plutôt complémentaire de Patrick Queen dans cette défense. Donc ça va apporter un plus tout de suite. Après, je suis un peu plus dubitatif sur la suite. Pour rappeler, Roquan Smith en fin de contrat, donc il faut le re-signer à la fin de saison. Il prétend à un salaire équivalent à celui d'un Leonard, d'un Fred Warner, donc ça veut dire du 19 millions la saison. Voilà, je ne sais pas si les Ravens seront en mesure de lui donner, je ne sais pas si c'était la priorité pour Baltimore, tout ça.
Sachant
Donc...
qu'ils ont, sachant, excuse-moi, je te coupe propre, sachant qu'on rappelle, ils ont le contrat de Lamar toujours à prendre en
Ouais.
considération. Hein.
Voilà, qui semble pas avoir de prétention salariale à la baisse. Donc je m'interroge un peu sur la suite long terme. Maintenant, j'ai envie de te dire que si c'est le genre de trade à la, on va dire à la Von Miller, toute proportion gardée, mais à la Von Miller qui amène un impact tout de suite, qui te permet d'aller soulever un trophée dans 6 mois, eh ben c'est pas très grave si tu as donné un deuxième tour pour ça. Mais sur le long terme, je sais pas.
Bon, ils sont 24, 20e, pardon, sur les points encaissés, 24e sur les yards. L'essentiel pour cette saison, en tout cas, Greg, c'est que c'est vraiment un très bon renfort. On parle d'un franchise player défensif quasiment.
Oui, d'un joueur relativement complet. Et c'est vrai que pour le coup, là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, il a un volume de jeu qui pourra permettre à Baltimore peut-être de s'exposer un peu moins défensivement. On sait que paradoxalement, Baltimore, c'est une équipe qui est capable de provoquer des pertes de balles. C'est une équipe qui est capable de saquer le quarterback adverse, mais qui malheureusement a ce côté un petit peu ça passe ou ça casse en fonction des séquences défensives. Et le fait de rajouter, on sait qu'il cherchait. Depuis plusieurs années maintenant, cet inside linebacker vraiment d'impact, justement capable d'avoir ce volume suffisant et cette expérience que peut apporter Roquan Smith dans un vestiaire et sur un terrain. Et je trouve que c'est bénéfique. Je rejoins Raph sur le côté, est-ce que ça va pas coûter trop cher à terme? Parce que c'est, oui, c'est clairement un bail de 2 mois a priori, à moins qu'on arrive en effet à bien bien gérer les deux dossiers conjoints de Lamar Jackson et de Roquan Smith. Mais c'est vrai qu'en attendant, voilà, pour une équipe qui est déjà prétendante pour les playoffs et plutôt pas trop mal engagée dans la FC Nord, enregistrer un tel renfort dans un secteur défensif qu'on avait bien besoin, c'est du Baltimore Ravens dans le texte.
N'oubliez pas que tout est possible sur les contrats NFL, messieurs. Un
Oui.
peu de foi, ils vont trouver de la place quelque part. Ils
Par
vont
contre, la perte d'AJ Klein, c'est quand même un gros, gros coup dur.
faire des restructurations, ils vont faire tout ce qu'il faut. 83 plaquages, donc 4 pour perdre, 2 sacs et demi, 2 interceptions et 3 balles, 3 passes défendues. Pardon?
Trois balles. Le 3
Oui.
mars, allez, voilà,
Voilà.
pour vraiment pour faire le compte. Hein.
3 passes défendues pour Roquan Smith cette saison. On rappelle quand même qu'on enregistre cette émission avant la dernière heure de la date limite des transferts, donc vous n'aurez pas forcément les dernières actus au moment où vous nous écoutez, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a des grosses choses qui tombent, on traitera ça dans l'émission mise en ligne mercredi matin, mise en ligne jeudi matin, pardon, la preview de la semaine, on parlera évidemment de tous les derniers transferts, s'il y en a eu énormément. Voilà pour l'actu,
Juste
attaquons.
quand même,
Vas-y.
enfin, finissons, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais Chicago gère pas trop mal le coup finalement parce qu'ils auraient eu du mal à le garder. Ils arrivent à récupérer des choix de draft, ils ne pouvaient pas avoir beaucoup mieux vu l'état dans lequel est la franchise en termes de top joueurs à payer et de trous surtout. Bon, voilà, ils s'en sortent bon an mal an, j'ai envie de dire.
Après, disons que c'est une franchise. C'est toujours compliqué, je trouve, ces franchises qui sont en reconstruction, mais qui liquident quand même leurs meilleurs joueurs. Tu sais pas combien de temps du coup va s'étirer la reconstruction, quoi.
C'est un peu ça. Je sais pas si on est enchaîné sur le Dallas Chicago, si tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, pour une équipe qui avait l'air un peu mieux, malgré tout, au moins sur les
En
2
plus.
dernières semaines, alors c'est sûr qu'on est plus focalisé sur le côté offensif que défensif. Du côté des Bears, c'est plus qu'on scrute de près, mais ouais, défensivement, je trouve que Matt Eberflus, même si on sait que c'est son secteur et qu'il a peut-être envie d'imposer sa patte dans ce secteur-là, sans avoir forcément des cadres qui rouspète peut-être un peu trop, mais voilà, là on a vu. Je rejoins un peu Rav dans ce côté-là, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tout fait également pour convaincre Roquan Smith de rester. Il suffit de voir le trade de Robert Quinn et l'état dans lequel s'est mis le néo-linebacker des Ravens. Voilà. Il y a eu, je trouve, une gestion un petit peu particulière, même si en effet, voilà, il y a peut-être une situation contractuelle qui devenait un peu compliquée à gérer.
Allez, on part sur les matchs.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On parle des matchs de la semaine et on commence avec Falcons et Panthers, 37 à 34. pour Atlanta. C'était le match le plus fou de la semaine. Chaque équipe semble avoir perdu et gagné ce match plusieurs fois. Les Falcons sont passés devant à 2 minutes 14 de la fin avec un touchdown de Damien Bird. Leur défense a stoppé Carolina. Ils ont ajouté un field goal. Carolina récupère le ballon avec 36 secondes à jouer. DJ Moore marque un touchdown de 62 yards, mais il retire son casque pour célébrer. Pénalité qui recule l'extra point. Eddie Pinheiro rate. Prolongation. Là, Eddie Pinheiro... Alors, d'abord, interception de la défense de Carolina qui remonte le ballon. Eddie Pinheiro rate un field goal de 32 yards et les Falcons réussissent un field goal dans l'autre sens et gagnent donc ce match. Les Falcons ont gagné. Ils sont à 4 victoires et 4 défaites. Est-ce que c'est dur de penser que c'est quand même un peu injuste pour les Panthers ? Greg, en plus, tu es biaisé. Donc, si toi, tu trouves que c'est injuste, au moins, on aura un avis honnête. Mais tu n'as pas l'air de penser que c'est injuste.
Je sais pas, il y a une justice en NFL. écoute, si la question c'est de dire est-ce que Carolina aurait largement mérité de s'imposer, oui, Carolina aurait largement mérité de s'imposer. En effet, ils ont montré en tout cas des choses un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière contre Tampa Bay. Visiblement, ce changement de head coach, ou en tout cas ce changement d'environnement, a été assez bénéfique. Et c'est vrai que même si on avait pointé du doigt notamment les grosses failles défensives d'Atlanta, notamment au niveau du backfield face aux Bengals, c'est vrai que là, la prestation notamment du duo PJ Walker DJ Moore, entre autres, hein, parce qu'il y a eu un très bon Deonta Foreman également au sol, ça laisse entrevoir en tout cas de bonnes choses pour Carolina. En tout cas, on passe d'une équipe qui était potentiellement numéro 1 de la draft à une équipe qui a clairement les cartes en main malgré cette défaite-là, pour continuer de se battre dans l'optique des playoffs dans cette folle NFC Sud. Donc voilà, c'est encore une fois injuste, je sais pas. Les kickers font partie du jeu. Je sais que ça vous embête, messieurs.
Alors, mais je vais te dire, c'est même pas les kickers. Je vais pas être.
Tu vas parler de l'arbitre.
Bah moi, c'est plus la pénalité qui m'embête. Alors évidemment, la loi, c'est la loi. Très bien, on va pas la refaire. Elle est comme ça, ils l'ont appliquée, etc. Mais tu vois, à la limite, je vais te dire, j'ai pas envie de devenir la caricature de moi-même et qu'à chaque fois qu'on parle de kicker, je fasse semblant d'être outré, etc. On n'est pas là pour ça. Donc voilà. Mettons, voilà, Pinheiro, il rate son field goal, ça arrive. Il rate son extra point, ça arrive. C'est embêtant, ça m'agace. Ils ont beaucoup trop d'importance, mais je vais pas le dire en hurlant. Je suis pas Stephen A. Smith ou voilà, on n'est pas. Non, mais voilà, je suis pas. J'aime pas quand un mec devient une caricature sur tout le temps le même sujet. Donc, je veux dire, mon avis, il est connu là-dessus. Voilà. C'est la pénalité en fait que je trouve injuste. C'est-à-dire que le type marque un touchdown de 62 yards complètement impossible. C'est un sport où il y a de l'émotion. En fait, il y a de l'émotion dans tous les sports. Hein. Je pense que vous marquez un but avec vos potes le dimanche matin sur un terrain de foot, vous êtes content, vous célébrez. Bon, là, le mec, il a enlevé son casque. Il y a deux mecs qui ont enlevé son casque. Je l'ai dit si, un peu... En...
Oui. Excuse-moi, non, juste pour la parenthèse et je te laisse poursuivre. Si, pour répondre, parce que j'ai peut-être répondu à côté aussi par rapport à ta question, s'il n'y avait pas eu pénalité, j'aurais pas été scandalisé.
Oui, voilà.
À titre personnel.
Moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je l'ai dit en rigolant sur le Slack de la rédaction le jour du match. Il n'a pas frotté ses parties sur la tête de son défenseur. Il n'a pas fait des gestes obscènes. Il y a plein de gens qui ont dit, mais en fait, il a fait quoi? Parce qu'en fait, qui ne connaissent pas forcément cette règle du casque enlevé qui vaut une pénalité. Bah, c'est ridicule, quoi. Moi, ça me fait marrer parce qu'on a tout le temps ces trucs sur Twitter, des gens qui disent, ouais, il n'y a que ceux, insérer le sport, qui réservent ce genre d'émotions. Et en fait, tu as l'impression que les NFL, c'est les seuls qui font. Non, non, les émotions, pas chez nous, par contre.
Alors, je peux monopoliser la parole parce que je vais laisser Raph donner son point de vue après. Juste, moi, il y a un truc, si je peux me permettre, parce que ça a été beaucoup mis en parallèle avec, par exemple, ce qu'a fait Terry McLaurin du côté de Washington après sa réception, justement, à un yard de l'embut d'Indianapolis. Là où je me dis que c'est deux cas un petit peu particuliers, alors encore une fois, le fond, j'entends ce que tu dis, Alain. Après, je pense que c'est plus, encore une fois, une question de forme. C'est-à-dire que on reste sur une phase de jeu qui, à mon sens, du côté d'Atlanta, n'est pas totalement terminée, parce qu'il y a l'extra point après. Il y a aussi le fait de jeter le casque.
Il l'a pas devient... jeté, il le garde en main, non?
À moi, il me semble qu'il le retire et on va dire qu'il le projette un petit peu vers l'avant, le dégage. Il me semble, hein, je ne vais pas me tromper. Hein.
Qu'il le garde. Ouais, okay.
Mais moi, je l'ai vu un peu comme la possibilité que ce soit un projectile avec des gros points, avec des grosses guillemets. Et la différence, c'est que McLaurin, pour terminer juste mon point, c'est que McLaurin le fait après un temps mort, il me semble, appelé par son équipe. Donc, du coup, ça devient une phase morte, alors que même s'il y a touchdown de Carolina, il y a potentiellement l'extra point derrière, ce qui fait que la séquence en elle-même n'est pas totalement terminée.
Non, très bien, mais tu vois ce que je veux dire, selon l'importance de l'action et l'exploit aussi réalisé, tu peux quand même laisser une marge de célébration.
Ah non, mais c'est pour ça que je dis, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, si on reste sur une règle purement arbitrale, et on sait que les questions arbitrales en NFL, c'est, c'est très contestable ces dernières semaines. Ça peut expliquer, par exemple, cette différence de traitement et le fait que l'un a été pénalisé et pas l'autre.
Ouais. Après, moi, je suis très libéral là-dessus. C'est-à-dire qu'il pouvait retirer son casque, faire une coupole sur la tête s'il voulait, je m'en fous, tu vois, tant qu'il passe pas 40 minutes à danser la polka. Très, très bien, tu vois. Donc,
apparemment, t'as quelque chose quand t'as polka, c'est bon à savoir.
Non, mais j'aime bien. Aucun problème avec la polka. J'adore Weird Al Yankovic. Raphaël, les Panthers avaient quand même fait le taf. Bon, après, on peut aussi dire que finalement, ils perdent sur pas grand-chose et ils auraient gagné sur un miracle hein, si c'était passé pour moi.
Oui, c'est ça. On parlait d'injuste ou pas. Rappelons quand même que Carolina, ils menaient quasiment tout le match en permanence. Mmh. Et finalement, ils égalisent à la fin sur une passe Ave Maria superbe, hein, mais qui reste presque un pile ou face. Enfin, c'est d'ailleurs la plus longue passe mesurée depuis très longtemps en termes de ballon dans les airs. Elle fait c'est vraiment 67 yards de lancer pur, on va dire ça comme ça. Donc la preuve que c'est aussi une action qui arrive pas tous les matins, j'ai envie de dire. Donc bon, je sais pas si c'est injuste en tant que tel. Voilà, c'est le match. Il y a des règles un peu débiles. On les applique. Passons le kicker. Il y a eu des opportunités pour l'emporter. Il passe à côté. Mais non, en tout cas, c'est une équipe de Carolina qui va un peu mieux, qui en tout cas, en attaque aussi, va mieux depuis que c'est PJ Walker qui est quarterback. Hein, qu'on en pense ou on en dise du bonhomme, c'est quand même des prestations bien plus intéressantes. DJ Moore est beaucoup plus visible depuis 2 semaines et que c'est PJ Walker qui a la baguette. Donc, alors ça ne veut pas dire que Carolina doit rester avec lui l'an prochain, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais en tout cas, je crois que c'était la preuve que les expériences d'Arnold, Mayfield et compagnie étaient pas forcément Bridgewater même en remontant avant n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à faire pour cette équipe. Voilà. Et puis les Falcons continuent à surprendre avec un Arthur Smith qui là a joué beaucoup plus de passes qu'il ne l'a fait ces dernières semaines. Alors ça reste très très limité hein, par Marcus Mariota, mais en tout cas on a revu du Kyle Pitts donc voilà, encore une fois il sait plus ou moins s'adapter au momentum, j'ai envie de dire, de son équipe et ce sur quoi il faut insister, donc ça va dans le bon sens.
Je veux dire un mot juste pour conclure sur les Panthers, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux. Tu le disais, ils ont eu des occasions. Il faut quand même saluer, en effet, au-delà de Walker, Foreman, qui est quand même à 118 yards au sol, qui s'est mis en coureur numéro 1. Il avait déjà montré des belles choses l'an dernier en relève de Derrick Henry. Mm-hmm. Donc, c'est une belle chose. Et puis, DJ Moore, les stats, c'est quand même 6 réceptions, 152 yards, un touchdown. Tu le disais, c'est vraiment excellent. Et l'expérience PJ Walker, en effet, j'étais en train de penser quand tu le disais, Mayfield, Darnold, etc. En fait, c'est un reverse Colts. Les Colts, ils testent tous les vieux quarterbacks cramés et les Panthers, ils testent tous les jeunes quarterbacks cramés. Tu sais, genre les mecs qui sont en fin de contrat rookie, qui n'ont pas réussi. Ils disent, allez, viens, on va réessayer. Dernier essai.
Attends, le trade d'intersaison pour faire venir Mac Jones, ça va être incroyable. Ça va être fascinant à suivre.
Bah, soit Mac Jones, soit Bailey Zappi. Et puis
oui, c'est ça, du coup, un des deux, ouais, c'est bien.
Il y en a un des deux, clairement. Atlanta, du coup, équipe plus complète au sens où les éclairs de Mariota ont peut-être été plus nombreux que ceux de Walker, Greg ? Parce qu'il a eu quelques passes avant, si on ne compte pas l'Ave Maria de Walker, ouais. On peut se dire que Mariota fait la différence avec quelques éclairs.
Oui, en tout cas, ça a été. Il y a eu un peu plus de précision dans le domaine aérien. Après, forcément, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Mariota, en fait, où tu lui fais lancer très très peu le ballon, et à ce moment-là, tu limites les turnovers, mais forcément, c'est pas très productif et t'as un jeu qui devient beaucoup trop prévisible pour la défense adverse. Ou à ce moment-là, tu choisis de le faire lancer un petit peu plus pour équilibrer ton playbook, mais tu te retrouves à avoir beaucoup plus de déchets. Et là, en l'occurrence, 2 interceptions, dont la dernière qui aurait pu être extrêmement fatale. Puisque c'est celle en l'occurrence qui amène à l'interception de DJ Anderson, t'en parlais tout à l'heure, et à ce field goal manqué d'Eddie Pignero en prolongation. Donc voilà, après malheureusement, je le répète, hein, on découvre pas les qualités et les défauts de Marcus Mariota. Oui, c'est un joueur qui peut apporter de la mobilité, et c'est lui qui réalise à l'inverse le jeu décisif qui facilite également le field goal victorieux de Yangeku. Mais voilà, c'est sûr qu'après, d'un point de vue passe et précision, est-ce que c'est suffisamment bonifié ? Parce que si tu prends le touchdown à la réception de Damir Bird, c'est un peu Bird qui se le fait tout seul aussi, malgré tout. Donc, on va s'en contenter du côté d'Atlanta. Mais voilà, je vais rien apprendre à personne, mais il y a énormément de failles dans cette équipe-là. Mais je trouve que ça reste extrêmement bien coaché, assez discipliné globalement. Et sur des matchs comme ça, où ils auraient pu douter plus d'une fois vu le scénario de fin de match, au moins ils ont continué de s'accrocher et à faire front pour tenter de récupérer les momentum. Donc on va s'en contenter, on va dire, du côté des Falcons.
Bon, il y a jeu au sol, il y a des éclairs. Raphaël, par contre, il n'y a pas de défense. Ils prennent 478 yards, on l'a dit. Ils prennent 169 yards au sol. Est-ce qu'ils peuvent tenir la division dont ils sont leaders, quand même, on le rappelle, avec 4 victoires, 4 défaites, avec une défense pareille?
Bonne question. Je suis pas sûr qu'ils peuvent la tenir, mais d'un autre côté, ça, personne ne veut vraiment la prendre, cette division. Donc, je sais pas, tout le monde est un peu irrégulier. Ça risque de finir par peser. Après, c'est une prestation mauvaise en défense, mais il y en avait eu des un peu meilleurs les semaines d'avant. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Ah bah là, les deux corners titulaires absents, le playbook adverse, c'est concret. Hein. Ça balance à tout va. Hein.
Après, on va dire qu'entre cette défense irrégulière et Mariota, qui est quand même irrégulier, sur les passes en profondeur, je l'ai pas dit, il est à 0 sur 4 et 2 interceptions. Donc, c'est quand même très compliqué. Ça risque de rester un pas derrière les Saints et les Buccaneers. En tout cas, les Saints qui s'imposent 24-0 contre les Raiders, relancés par une prestation complète. Ils ont complètement éteint les Raiders. Les titulaires de Las Vegas en 7 possessions n'ont pas mis une seule fois les pieds en terrain adverse. On va revenir sur le côté Raiders après, mais ça reste une excellente nouvelle pour la défense de New Orleans, qu'on a parfois cru un peu perdue cette saison, Raphaël.
Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment la bonne nouvelle côté New Orleans. On l'avait dit en intersaison, le point fort de cette équipe semblait être la défense, qui était ultra complète, avec des joueurs de talent à peu près à tous les rideaux, on va dire. Et on l'avait un peu perdue. Et là, elle est revenue en force. Et notamment, je trouve que c'est caractérisé par la défense au sol, qui a complètement éteint le jeu de Josh Jacobs et le jeu au sol de manière générale des Raiders, qui pour le coup était la seule force de Las Vegas ces dernières semaines. Donc retrouver une défense de New Orleans qui est capable de complètement fermer le jeu au sol adverse pour pouvoir se concentrer, mettre un peu plus d'hommes, on va dire, sur la défense aérienne, bah ça aide tout de suite cette équipe. Et on voit que du coup, quand la défense est à ce niveau-là, l'attaque n'a pas besoin d'être transcendante. Elle a juste à marquer les deux touchdowns qu'il faut, on va dire, pour faire la différence. Et en tout cas, c'est un peu plus ce New Orleans-là qu'on attendait en intersaison. On était certains. Alors, je sais que toi, tu avais un peu plus de doutes, notamment à cause de Winston. Mais c'était un peu plus ce New Orleans-là qu'on attendait avec certains. Défense très solide et une attaque qui fait ce qu'il faut pour aller remporter les matchs contre les équipes. En tout cas, je ne pense pas qu'avec ça, tu puisses aller battre Buffalo ou Kansas City. Mais en tout cas, pour battre des équipes à ta portée, c'est ça qu'on attendait. Et donc, quand on voit, comme tu le dis, quand on voit le reste de la NFC Sud... Bah, s'ils arrivent à garder ce format-là, ils sont clairement en course pour aller la remporter.
Greg, avec Camara en attaque, 18 courses, 9 réceptions, 3 touchdowns, et Andy Dalton qui perd pas de ballon. Ça joue ?
C'est un peu ça aussi. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce qui s'est passé la semaine dernière et sa prestation pour le moins compliquée contre Arizona avec, je crois, 2 pick 6 de mémoire concédés. Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, on sait ce qu'on on a avec Andy Dalton, et a priori, il y a un peu moins de pertes de balles qu'avec Jameis Winston. Il y a une attaque aérienne qui progresse malgré tout du côté des Saints cette saison. Hein. C'est une équipe qui était vraiment dans les bas-fonds de la ligue ces derniers mois et qui reprend un petit peu du poil de la bête à la passe. Donc voilà, ça compte, ça insiste sur cet état de fait-là. Et puis oui, le duo Camara-Hill, en tout cas, qui permet à cette attaque de se rebooster un petit peu plus. Je suis pas totalement d'accord avec Raf juste sur la question du run stop, parce que je trouve que Las Vegas n'a quasiment pas utilisé justement son jeu à la course.
Il y a que 13 courses.
Bah, c'est ça. Et bon, la défense en tout cas est meilleure. Par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières semaines face aux Seahawks, aux Bengals, même face aux Cardinals. Bon, c'est là, je peux difficilement dire le contraire, mais c'est vrai qu'ils sont aussi tombés sur une équipe de Las Vegas qui a passé son temps à se mettre aussi des bâtons dans les roues, notamment offensivement. Et je me permets peut-être la petite passerelle, hein, je passe tellement enchaîné dessus, Alain. C'est compliqué quand même ce que fait Josh McDaniels. Hein. On a l'impression que son objectif sur un match, c'est de tuer tout momentum de son équipe.
119 yards en 7 possessions.
Bon, voilà, c'est...
Davante Adams, Hunter Renfro. Alors Davante Adams, c'est un peu malade, mais Adams, Renfro, c'est en cumulé 2 réceptions pour 9 yards. Là, je vois plus trop ce qu'on peut dire sur, en effet, l'attaque de Josh McDaniels. Raphaël, il trouve vraiment aucun rythme. Ça marchait, tu le disais, avec Josh Jacobs depuis 2-3 semaines, mais...
Ouais, non, on ne sait pas très bien où il mène cette attaque, en tout cas. Les 2 semaines d'avant, c'est au sol, là... Effectivement, alors moi je trouve malgré tout il passe un peu moins au sol parce que la défense en face joue bien, donc il est peut-être tenté d'aller un peu plus d'aller un peu plus dans les airs. Mais ouais, quand on se rappelle le premier match où Davante Adams était le seul à être ciblé, puis derrière il a plus qu'une, alors il est un peu malade, mais enfin tout de même un target, on va dire, ça paraît compliqué. Je sais pas, effectivement, c'est un peu un gloubi-boulga. Et
Il a
je
réussi à le
vois.
placer, bravo.
Ouais, je me l'étais noté là, j'ai une petite liste. C'est avec deux, trois mots comme ça. Non, je sais pas. Franchement, je comprends pas vers quoi il tend. Alors, il y a une ligne offensive qui est toujours pas terrible, qui n'aide pas le tout, mais enfin, ouais, je suis sceptique comme vous.
On va avancer sur les Eagles et les Steelers. 35 à 13 pour Philadelphie. Les Eagles menaient 21-10 à la pause grâce à trois touchdowns de Lynn et Tablet Gébrand. Ensuite, Zach Pascal et Miles Sanders ont fait exploser l'écart en deuxième mi-temps pendant que la défense bloquait complètement Pittsburgh. Gardner Minshew est même rentré en fin de match pour rappeler qu'il est toujours en NFL et qu'il joue à Philadelphie. 401 yards, 7 sur 12 en troisième tentative. Aucun ballon perdu pour Philadelphie. 6 sacs pour la défense, 2 ballons volés. Bon, voilà, c'était trop facile. Est-ce qu'on a de loin la meilleure équipe de la NFC, Grégory?
Pour l'instant, c'est ce qui saute aux yeux depuis le début de la saison, parce que même Minnesota, qui est deuxième, et dont vous avez parlé dans un précédent podcast, je trouve quand même assez inconstant d'une semaine à l'autre. Il y a beaucoup de succès un petit peu étriqué. C'est pas spécialement le cas des Eagles, qui gagnent avec quand même pas mal de confort et d'assurance, mine de rien. Ils rassurent chaque semaine, ou en défense, ou en attaque un petit peu plus. Et là, en tout cas, on peaufine la connexion Hurts-Brown. Donc voilà, face à des Steelers qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'exister dans ce match, ça a été un succès relativement simple.
Bah, disons que oui, ils peuvent gagner de toutes les manières. C'est-à-dire que quand ils m'attraquent pas au sol, quand ils m'attraquent pas au sol, et bah, ils disent bon, on va passer par les airs. Jalen Hurts, il peut lancer 285 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Bon bah voilà,
Oui,
super.
c'est ça. Enfin, j'allais dire, ils utilisent peu Devonta Smith. En tout cas, il a été peu mis en avant, mais sur un autre match, on a vu qu'il est capable de briller aussi.
C'est ça.
Donc voilà, pick your poison, comme on dit.
Exactement. Raphaël, côté Steelers, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'éterniser sur Philadelphie vu la prestation, mais côté Steelers, par contre, c'est 1 sur 12 sur troisième tentative de ballon perdu. Est-ce qu'on peut dire, allez, le point positif, c'est qu'il y a quand même 144 yards au sol cette fois?
Ouais, oui. Non mais oui, on peut dire ça, effectivement. Ça avance au sol. Non, je sais pas, tu m'as surpris, j'avoue que je m'attendais pas à
Non.
partir sur le sol de Pittsburgh. Donc
Non, mais parce que
voilà.
je cherche ce qui pourrait aller bien du côté de Pittsburgh, mais c'est vrai que Kenny Pickett, le pauvre, se retrouve saqué 6 fois et il continue d'affronter quasiment les meilleures équipes de la ligue à la queue leu-leu pour débuter sa carrière.
Ouais.
Après, ceci étant dit, bon, il n'est pas déshonorant non plus dans ces
Non,
conditions-là. Hein.
il est pas déshonorant. Non, mais comme tu dis, c'est une attaque qui est en construction, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un quarterback rookie, il y a une ligne offensive en difficulté, donc ils essayent de trouver les bonnes touches comme il faut par moment. Là, effectivement, le jeu au sol marche mieux que ces dernières semaines où c'était vraiment compliqué, mais j'ai peur que ce soit un peu un épiphénomène, si tu veux, cette bonne situation au sol cette semaine. Je ne suis pas sûr qu'ils le reproduisent la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est une équipe, une attaque menée par un rookie, c'est compliqué avec un coordinateur offensif qui, à mon avis, n'est pas le plus inspiré de la ligue en plus. Donc, bon.
Greg qui hoche la tête, Matt Canada, ça te plaît pas vraiment.
Non, bah écoute, j'en ai parlé avec Xavier ce week-end, un des membres de la rédac, fan des Steelers, mais oui, c'est vrai que je pense que les play calls sont pas très originaux, quoi. C'est, je pense que c'est du coach de college football, et voilà, la marche est peut-être un petit peu haute pour essayer vraiment de surprendre des coordinateurs un peu plus chevronnés.
On enchaîne alors avec les Cowboys et les Bears, 49 à 29 pour Dallas. Démonstration offensive aussi des Cowboys, 4 touchdowns sur leurs 4 premiers drives. L'événement, c'est Tony Pollard, 14 courses, 131 yards, 3 touchdowns. Alors, officiellement, toujours soutien full à Ezekiel Elliott, hein, de Jerry Jones et de tout le monde. Bon, le fait est quand même que Tony Pollard a l'air de prendre le pouvoir, Raphaël.
Écoute, on aimerait bien. Je crois que ça fait quand même pas mal de 2 semaines que beaucoup demandent à ce que Pollard ait plus de ballons, ou qu'en tout cas la répartition des portées entre Pollard et Elliott passe en faveur de Pollard, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ouais, moi je le trouve quand même plus vif dans ses courses, plus de capacité à changer d'appui, de direction. Alors l'avantage qu'Elliott lui garde, c'est d'être en pass protection, d'être un peu plus utile au bloc que Tony Pollard. Mais enfin, si ton running back numéro un, sa qualité principale, c'est de bloquer le rusher adverse, je suis pas sûr que ce soit l'utilité principale en NFL quand même malgré tout. Donc oui, j'espère que Kellen Moore va un peu changer d'état d'esprit là-dessus, parce que cette attaque me semble quand même bien plus efficace avec Pollard à la baguette. Donc bon.
9,4 yards par course, petite moyenne.
Moi, j'étais sûr que Raph allait soutenir Ezekiel Elliott pour les ballons. Non, mais moi, ce que je trouve, enfin, ce que je trouve fabuleux, c'est pas forcément, c'était pas forcément ton propos exact, Alain, mais pourquoi faudrait faire jouer l'un plutôt que l'autre? On les a déjà vus jouer ensemble depuis le début de la saison. Des one-two-punch efficaces dans des backfields offensifs, surtout derrière une bonne ligne offensive et avec un quarterback comme Dak Prescott qui est capable aussi de pouvoir dynamiter un petit peu dans le domaine aérien. Même si on voit que pour l'instant, la phase de reprise est toujours un petit peu compliquée depuis sa longue absence. Voilà, je veux dire, ça permet à Dallas, encore une fois, d'avoir une excellente défense, d'avoir une attaque, là aussi, à l'instar de ce qu'on disait pour les Eagles tout à l'heure, une attaque un peu protéiforme qui est capable de vraiment piéger n'importe quelle défense avec des armes différentes. Donc voilà, donc c'est une très très bonne chose en effet qu'on puisse s'appuyer sur un Tony Pollard de qualité quand Ezekiel Elliott n'est pas là. Je rejoins ce qu'a dit Raph sur le côté peut-être un peu complémentaire des deux hommes, les qualités en tout cas un peu différentes dans lesquelles on peut les utiliser en fonction des phases de jeu. Mais voilà, après dire est-ce que forcément faut plus faire jouer Tony Pollard que Ezekiel Elliott, je sais pas, mais en tout cas visiblement le jeu au sol paraît assez inarrêtable avec les deux hommes si on leur donne suffisamment de portée à tous les deux.
Un peu dur quand tu dis, enfin, t'as pas dit laborieux pour Dak Prescott, mais compliqué la reprise, ou je sais plus ce que t'as dit exactement.
Non, c'est encore un peu, enfin, comment dire, c'est pas flamboyant, quoi. C'est pas,
ouais,
c'est
ça par rapport à, par, quand même.
Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est voilà, c'est, on sait qu'on peut avoir mieux de Dak Prescott, mais que pour l'instant, à l'instar de ce qu'on avait vu face aux Lions, voilà. Après, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose s'il a le temps de pouvoir faire. On a vu quand c'était Cooper Rush que c'était pas forcément le quarterback, la vedette pour l'instant dans ce système offensif-là. Si ça laisse du temps à Dak Prescott, encore une fois, pour se remettre à 100% et être efficace, pourquoi pas en décembre, voire en janvier, tant mieux pour Dallas.
Micah Parsons plie le match avec un fumble retourné pour un touchdown dans le troisième quart. Ça donne une mauvaise image de l'attaque de Chicago, surtout quand Justin Fields oublie de plaquer ou de toucher Parsons pour mettre fin à l'action. Mais en vrai, l'attaque de Chicago, Greg y a fait un peu allusion tout à l'heure, ça va un peu mieux. Justin Fields a 17 sur 23, 151 yards de touchdown. Alors, il n'y a toujours pas des chiffres incroyables, mais il y a 240 yards au sol. Et ça semble quand même un peu plus dynamique. 29 points, ils n'avaient pas dû les toucher souvent hein, cette saison, Chicago. Je vais vérifier ça. Mais oui, non, bah, ça doit être la première fois d'ailleurs. Hein, oui, c'est leur plus gros total de points de la saison. Donc, y a... bon, oui, c'est un peu... On se contente de peu. Mais c'est déjà bien quand même, Greg.
C'est leur meilleur total de points de la saison ?
Ouais.
Ils n'en avaient pas mis 33 à New England ?
Ah si, pardon, c'est ça, ouais, c'est la victoire.
Oui, en tout cas, oui, ils tutoient ce gros score. Mais de toute façon, voilà, après, c'est toujours pareil. Moi, je veux bien qu'on mette un excès de pression sur Justin Fields parce que c'est un ancien premier tour, etc. Maintenant, leur identité, on l'avait plus ou moins deviné à la fin de l'ère Matt Nagy et ça a l'air de reprendre un petit peu cette tendance-là avec Matt Eberflus. Surtout quand tu as une ligne offensive et un pass pro qui a l'air extrêmement en difficulté depuis le début de la saison. Voilà, c'est du jeu au sol à outrance. C'est un Justin Fields qui est capable éventuellement, en gagnant un petit peu de temps, de trouver des cibles qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et oui, en effet, il va falloir se pencher dans ce secteur-là dans les prochains mois. Mais en attendant, voilà, rester sur l'identité, à savoir du jeu au sol, voir si éventuellement l'adversaire est capable de le stopper. Là, face à une bonne défense globalement de Dallas, je trouve qu'en effet, c'est ce qui leur a permis d'y croire un minimum parce qu'ils ont fait quelques rapprochés, mais on n'a jamais vraiment senti Dallas en danger. Mais en tout cas, voilà, il y a une bonne tendance ces dernières semaines et c'est la principale chose à retenir.
Raphaël, rassuré aussi par cette tendance du côté de Chicago?
Oui, effectivement, Greg l'a dit, ça se passe quand même mieux offensivement. Même dans le jeu au sol, je trouve que Justin Fields est aussi utilisé un peu plus intelligemment sur les courses qu'il a. C'est pas des... Ses gains à la course sont pas parce qu'il s'échappe de la poche par pression, mais plutôt parce que on a décidé de le faire courir. Donc c'est un peu plus intelligent et ça va dans le bon sens. Après, il y a trop de trous dans l'effectif pour que ce soit flamboyant de toute manière, mais bon, c'est rassurant de voir du progrès.
Et il y a un trou de plus donc avec le départ de Roquan Smith. Colts 16, Commanders 17. Les Commanders qui équilibrent leur bilan. Ron Rivera est en pleine période où il sauve son job avant de retomber un petit peu en fin de saison, normalement. Ceci étant dit, il gagne donc 3 fois de suite. C'est grâce à un touchdown de Taylor Heinicke en fin de match. On n'a plus aucune raison de revoir Carson Wentz. J'évacue ça tout de suite.
Non. Non, après, je ne sais pas si c'est dans les plans. Hein. Visiblement, on prend plus de précautions du côté des Commanders que du côté des Colts quand on annonce les quarterbacks à venir. Mais je pense que oui, on est. Enfin, globalement, même si ce n'est pas fabuleux en attaque, je ne sais pas ce qu'on pense, Raph, mais même si ce n'est pas fabuleux en attaque, on est quand même un poil plus rassuré avec Heinicke qu'on ne l'était avec Wentz.
Raphaël, tu es plus rassuré par Taylor Heinicke.
Ouais, je sais pas si rassurer le terme, mais
moins inquiet, quoi.
ouais, moins inquiet. Non, mais disons que déjà, il a moins de cette capacité à perdre des ballons, à faire des fumbles et surtout à se mettre en difficulté dans la poche comme Carson Wentz pouvait le faire. C'est quand même un peu plus propre à ce niveau-là. Et donc, ça permet à Washington d'avancer plus. Après, bon, voilà. Je veux dire,
Oui,
ça reste.
c'est pas une équipe folle en face.
Ouais, c'est pas une équipe folle en face. Ça reste quand même très poussif en attaque. Bon, j'espère qu'ils vont pas se dire faut qu'on teste Heineken l'an prochain, quoi. J'espère
Ah
qu'on
oui,
n'en est pas
non.
là.
Bon, en tout cas, il mène un drive de 89 yards en 2 minutes 17 sans perdre le ballon. C'est aussi ça la différence
Passer une
peut-être
bonne
avec Carson
défense,
Wentz
parce
face à une.
qu'heureusement que les Colts sont en bonne défense sur ce match-là.
Oui, aussi. Sam Ellinger était une des attractions de la semaine. Il commence par en 17 sur 23, 201 yards. Ça n'a pas été un grand match. Il a perdu un fumble. On avait dit en preview que son job, c'était de ne pas perdre de ballon. Il a perdu un fumble. Est-ce que ça restait quand même une meilleure décision? La différence, c'est que lui, il peut éventuellement courir un petit peu. Il peut un petit peu s'échapper, quoi. Non? Greg, tu n'as pas l'air convaincu.
Non,
Là.
mais j'attendais. Tu t'imagines bien que j'ai scruté avec grand intérêt le playbook offensif d'Indianapolis, hein, parce que Matt Ryan était le problème du côté de l'Indiana ces dernières semaines. Donc voilà. Donc bizarrement, play call équilibré pour ce match-là. On ne peut plus lancer le quarterback 50 fois. Donc
C'est vrai.
c'est bon à savoir. Ça
C'est
marche
vrai.
pas mieux, puisque bon, après, voilà, je vais pas être sévère gratuitement avec Sam Ellinger. Ça reste un jeune quarterback. Encore une fois, oui, il y a cette perte de balle, mais en soi, pour un premier match dans ces conditions-là. En plus, il me semble qu'il repère Jonathan Taylor en cours de match, non? Il me semble qu'il est sorti à un moment
Il
donné.
fait des alternances, ouais.
Ouais, c'est ça. On sentait qu'il n'était pas totalement à 100%, donc c'est sûr que ce n'est pas non plus idéal. Il y a quelques drops un peu moches. Je pense à ce drop notamment de Michael Pittman, qui aurait pu permettre justement à Indianapolis de se mettre en bonne position de field goal sur une des dernières séries du match. Mais voilà, après, encore une fois, moi, je trouve que ouais, changer de quarterback, c'est bien, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt? Avec un quarterback un peu plus expérimenté, encore une fois, bon là en l'occurrence Ryan est blessé, mais ouais, je suis toujours un petit peu circonspect par ce qui est mis en place par Frank Reich offensivement ces dernières semaines.
29 courses pour 23 passes, hein, le play call dont tu parlais. Raphaël, il y a 1 sur 3 dans la zone rouge, mais c'est un jeune quarterback, c'est une mauvaise ligne. Il a quand même plutôt été précis, pas trop en panique dans la poche. Il y a une belle place pour Alec Pierce, ça se teste, non, quand même?
Oui, ça peut se tester jusqu'à la fin de saison parce que de toute manière, Matt Ryan n'est pas la solution long terme, donc et n'est même plus la solution court terme visiblement. Donc oui, ça se teste. Après, comme tu dis, par exemple, le 1 sur 3 en red zone, en fait, c'est même pas tant Sam Ellinger que les Colts de Frank Reich depuis trois ans. En fait, ça fait 3 ans que l'attaque en red zone patine et une des moins bonnes de la ligue. Et ça se confirme. Moi, je pense sincèrement que Frank Reich a fait son temps là à Indianapolis et on a vu ce qu'il pouvait amener à Indianapolis et cette équipe irait pas beaucoup plus loin. Donc je le mets plus sur, franchement, je le mets plus sur le coach que sur le quarterback pour le coup.
Ah ouais, t'es déjà prêt à virer Frank Reich.
Bah il est menacé, hein.
Bah franchement, enfin tu
C'est vrai qu'il y a
enfin,
déjà.
ce match-là, c'est un peu le gif des deux Spider-Man.
Ah oui.
C'est deux équipes qui
Il y a
font un
un
peu
peu de
du
ça, ouais.
surplace, notamment
Oui,
offensivement. Et tu vois,
franchement.
ce qu'on dit sur Ron Rivera, on peut le dire aussi sur Frank Reich, c'est-à-dire que malgré tout, et ça fait quelques semaines qu'on en parle, oui, il a l'air de perdre un petit peu le fil offensivement, lui qui était considéré comme le génie offensif derrière notamment le titre des Eagles il y a quelques années. Alors oui, il n'a pas forcément des quarterbacks très très jeunes, mais encore une fois, on a l'impression qu'il est clairement en manque de solutions dans ce domaine-là. Et malheureusement, c'est ce qui peut à terme, voilà, quand on a une équipe qui régresse de manière aussi notable ces dernières années, notamment par le biais de l'attaque, alors que paradoxalement, tu as un running back qui explose. Ça pose quand même des questions sur la gestion du coaching.
Bon, il est là depuis 2018, c'est vrai que je le voyais là depuis moins longtemps, donc ça peut commencer à chauffer. Petite pause et les derniers matchs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Bills 27, Packers 17, ça n'a pas été un massacre, mais les Packers n'ont pas vraiment inquiété Buffalo non plus. 24-7 pour les Bills à la pause. Les Packers ont marqué deux beaux touchdowns, un par Roméo Doux au début, un par Samori Touré à la fin. C'est toujours bien trop peu, messieurs. Ils ont couru, c'était un peu plus équilibré, mais ça continue de manquer de talent aérien cruellement. Raphaël, je t'ai vu hocher la tête.
Ouais, bah quand je vois le jeu au sol de Green Bay sur ce match, les courses, la fluidité d'Aaron Jones, les brèches ouvertes par la ligne, je me dis, mais qu'est-ce que faisait Matt Fleur ces dernières semaines à donner trois ballons à Aaron Jones à la mi-temps? Enfin, franchement, là, alors sur ce match-là, ils le perdent et à quelque part, ils perdent contre Buffalo, qui est l'équipe en forme de la ligue. Et c'est comptablement, j'ai envie de dire que c'est pas là le problème de la saison pour Green Bay. Mais quand tu vois ça rétrospectivement, tu te demandes pourquoi ils n'ont pas plus joué au sol ces deux, trois dernières semaines quand ils perdent contre les Jets, contre les Giants. Enfin, il y avait quand même les clés pour aller remporter ces matchs. Et donc, ça. Pour moi, ce match-là, encore une fois, met en question Matt LaFleur, finalement, en termes de coach. Parce que, oui, il n'y a pas de grand receveur, comme tu le dis, mais il y avait quand même l'air d'avoir, du coup, les solutions en attaque pour faire mieux que ce qu'ils n'ont fait ces dernières semaines. Et là, ils le sortent contre Buffalo. C'est un poil désespérant. Donc, moi, ce match-là m'a presque plus... m'a presque plus conforté, oui, dans l'idée que Matt LaFleur, il y a un petit souci avec lui qu'autre chose, au final.
Greg, est-ce qu'ils étaient prenables, les Bills, au sens où... Green Bay déroule au sol, ils ont deux interceptions, ils limitent Buffalo à 369 yards, je ne sais pas si on peut dire limiter parce que ça fait quand même beaucoup de yards, mais c'est pour ça que moi je disais il manque les playmakers aériens, ce serait la touche qui les mettrait dans le coup en fait sur ces matchs-là, non?
C'est bien qu'on parle des playmakers aériens, mais est-ce que Aaron Rodgers fait un bon match, messieurs?
19 sur 30, 203 yards, deux touchdowns, une interception.
Ah, il y a quelques belles passes quand même.
Oui, mais alors c'est du Aaron Rodgers dans le texte. C'est-à-dire que regardez les gars ce que je suis capable de faire, pourquoi tu le fais pas tout le temps? Bon, je sais pas. Écoute, après tout, il y a Aaron Jones qui court, il y a des bonnes brèches, il y a une défense qui arrive à maintenir Josh Allen. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'en faire un petit peu plus? Enfin, bref, encore une fois, je vais pas défoncer une porte ouverte parce que malheureusement, avec Aaron Rodgers, on se répète un petit peu. Moi, je suis très, très, très sceptique. Alors, encore une fois, le fait qu'ils perdent à Buffalo, il n'y a rien d'infamant. Voilà, c'est même en début de saison, avant qu'on s'imagine leur forme du moment, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils gagnent à 100% là-bas. Maintenant, c'est sûr que voir l'écart qu'il y a à la mi-temps, alors que pourtant, encore une fois, défensivement, Green Bay a été extrêmement appliqué et que le jeu au sol a mieux fonctionné. Bah, c'est encore malheureusement à mettre en corrélation avec le niveau de l'attaque. Alors c'est sûr qu'ils perdent des receveurs en plus sur blessure sur ce match-là, donc ça n'aide pas non plus, pas que ce soit Fandard depuis le début de la saison. J'ai été assez étonné qu'on n'utilise peut-être pas aussi souvent, en tout cas les running backs en sortie de backfield, qu'on les utilise vraiment uniquement sur du jeu au sol à outrance et qu'on n'essaye pas un petit peu de piéger Buffalo dans des zones intermédiaires avec la vitesse des coureurs. Mais c'est vrai que malheureusement, je pense qu'au bout d'un moment, il faut en parler de cette situation d'Aaron Rodgers. Avant qu'il signe son contrat, il est double MVP. Alors moi, je veux bien, Davante Adams, c'est parti. Mais quand on est un joueur de la trempe d'Aaron Rodgers, normalement, ce n'est pas juste le départ d'un joueur aussi bon soit-il qui explique une régression aussi notable.
Tu irais jusqu'à faire la comparaison avec le départ de Tyreek Hill des Chiefs?
Je ne sais pas. Mais encore une fois, moi, je commence à me dire... C'est bon, j'ai signé mon contrat, je vous ai fait fermer vos bouches au coaching staff qu'on draftait un quarterback au premier tour. Maintenant, écoute, voilà, je passe du bon temps sur le terrain, enfin, tout est relatif, hein, parce qu'on cherche quand même à lui en mettre plein la tranche. Oui. Mais voilà quoi, je fais mon truc, mais de la manière la plus Aaron Rodgers-esque possible, donc avec un côté extrêmement frustrant, parce que tu sais que tu peux en avoir plus. Et que tu n'en as pas forcément plus. Je suis sévère, hein, mais c'est à la hauteur du talent du bonhomme. Encore une fois, on parle d'un double MVP en titre, quoi.
Je suis pas dans le. Je suis en train d'essayer de regarder ces contrats, parce que est-ce que c'est vraiment une question d'oseille pour un mec qui est déjà
Ah bah là, en tout cas, il a braqué la banque.
Là,
pour un joueur dont on se disait Green Bay va s'en débarrasser à coup de chausson, un peu comme ils ont fait avec Brett Favre il y a 10 ou 15 ans de ça, le mec dit non, bon, de toute façon, après, voilà, le niveau de Jordan Love était le niveau de Jordan Love, mais le gars fait non, je vais vous montrer, vous allez voir qu'en gros, vous êtes fourvoyé et vous êtes à côté de la plaque. Il signe sa prolongation et derrière, il n'y a rien. Donc, moi, ça me laisse un petit peu pantois. Il n'est pas tout jeune non plus, ça. C'est aussi à mettre au compteur. Mais je ne sais pas. Encore une fois, il n'y a pas que ça qui explique la méforme de Green Bay depuis le début de la saison. Mais dans un match, encore une fois, où il y a des choses qui ont été rectifiées, notamment le jeu au sol du côté des Packers, et ça, Raph l'a dit tout à l'heure, malheureusement, ça met un peu plus en lumière les lacunes du jeu aérien et notamment du pourvoyeur de ballon.
Apparemment, il a déjà gagné 300 millions de dollars en carrière, si je ne dis pas de bêtises.
Bon, après, voilà, en termes d'escroquerie, on n'est pas à l'échelle de Sam Bradford. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il les mérite malgré tout. Hein, mais bon.
Allez, on va avancer un petit peu. Raphaël, juste un mot pour les Bills quand même. Petit match de Josh Allen, 13 sur 25, 218 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Mais c'est aussi ça le truc des très très bonnes équipes, c'est de gagner quand tu n'es pas à ton max. Et là, ils l'ont bien fait.
Ouais, c'est ça. Deuxième mi-temps notamment un peu plus compliqué. Alors c'est vrai qu'ils ont donné un peu le sentiment de relâcher le pied en deuxième mi-temps, hein, d'y aller un peu plus tranquille. À la mi-temps, ils sont quand même largement devant. Et, ouais, c'est soirée tranquille, j'ai envie de dire. Ça m'inquiète pas outre mesure ce genre de match. Après, attention, parce que ça peut quand même leur arriver, un match un peu raté comme ça, raté dans une certaine mesure, hein. En attaque, en play-off, et tu peux te faire surprendre, donc faut pas que ça devienne. Disons, faudrait pas qu'ils rentrent dans un faux rythme du on est trop fort, tout est trop facile et on se laisse piéger au moment où en playoff ça va nous rentrer dedans de manière frontale, quoi.
On enchaîne avec les Lions 27, Dolphins 31. Les Lions menaient ce match 14-0, ils menaient 21-7, ils menaient 27-17 même à la mi-temps. Puis évidemment, ils n'ont plus marqué un seul point après la pause. Miami est repassé devant avec 2 touchdowns. Alors, il faut saluer deux choses à Miami, la défense qui s'est quand même parfaitement ajustée puisqu'ils prennent 0 points après la mi-temps, et puis tu as Tagovailoa. Lequel des deux mérite le plus d'applaudissements selon vous, Grégory?
Bah, je pense que c'est important de mettre en avant Tagovailoa parce qu'on voit que c'est clairement pas la même équipe avec et sans lui. Alors, c'est sûr qu'après, voilà, ça pose des questions parce que en effet, ça rappelle un peu le Tagovailoa d'Alabama, justement, pour ceux qui s'en rappellent des quelques années en college football, parce qu'en effet, on a cette capacité, on retrouve en tout cas cette capacité qu'il avait à être extrêmement dangereux dans le jeu vertical. Parce que des fois, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu caricatural, mais en tout cas, voilà, ça reste une équipe, une attaque. En tout cas, avec énormément de big play, une capacité à faire mouche dans n'importe quelle situation, notamment avec les deux speedsters sur les côtés. Mais très clairement, malgré ce système de jeu-là, Bridgewater et Thompson ces dernières semaines n'arrivaient pas forcément à faire aussi bien. Donc, c'est qu'en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Tagovailoa a l'air d'être revenu en forme. Et il arrive, en tout cas, voilà. On va dire qu'il s'écroule pas malgré les scénarios. On a vu plusieurs fois cette saison du côté de Miami. Je pense au match de Baltimore, par exemple, en début de saison, où même si tout se passe pas forcément très bien, voilà, il perd pas les pédales. Il joue pas contre nature. Il sait jouer avec ses forces, avec les forces de ses coéquipiers, et ça permet à Miami, même dans des matchs un petit peu moins bien, en tout cas sur des mi-temps un petit peu moins bien, de se remettre ensuite dans le bon sens. Donc voilà, c'est clairement là-dessus que je mettrais plus en face de mon côté.
29 sur 36, 382 yards, 3 touchdowns pour Tua Tagovailoa. Il faut quand même souligner Tyreek Hill est à 188 yards. Jalen Waddle est à 106 yards et 2 touchdowns. À eux deux, c'est donc 20 réceptions, 294 yards et 2 touchdowns. Raphaël, il faut aussi souligner quand même le travail des dirigeants de Miami qui ont super bien. Tagovailoa, attention, hein, progresse, il n'y a pas de souci, mais il a eu les armes.
Oui, bah bien sûr, ça faisait partie des raisons pour lesquelles on disait que Tagovailoa avait la pression cette saison, parce que pour le coup, on lui avait fourni les armes pour bien faire. Waddle et Hill sont sur des bases historiques, hein, en termes de duo de receveurs, de yards gagnés après 8 matchs. Enfin, ils sont à un très haut niveau. Ouais, petit aparté, c'est ce qu'on aimerait voir dans plus d'équipes, donner des armes comme ça à ces jeunes quarterbacks pour essayer d'aller loin. Donc oui, la franchise a bien travaillé. Ça permet à Tagovailoa de passer un cap, de se retrouver avec un duo de receveurs comme ça. Donc tout est bien construit. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer, j'ai envie de dire, à approfondir le travail, quoi.
clairement. Miami est à 5-3, bien relancé après deux victoires. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les Lions qui passent encore tout près? Je crois que Dan Campbell, cette fois, a dit, je sais que les gens en ont marre qu'on dise qu'on passe tout près, mais vraiment, on passe tout près. Hein.
J'attendais ma déclaration Dan Campbell de la semaine. C'est bon, je pense que... Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, mais je ne sais pas s'il est menacé, mais au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Quoi. Beaucoup de défaites d'une courte tête, même sur des matchs où, a priori, tu as l'air de tenir le bon bout, tu t'écroules de nouveau. C'est compliqué, les trois, hein, manifestement. C'est où il y a un manque de préparation ou il y a un manque d'ajustement. Donc, ça, même s'il n'y a pas du talent à tous les étages, ça peut quand même être un peu problématique. On a un Jared Goff qui est régulier. On a un pass rush qui a quand même été plus que renforcé ces dernières années, avec notamment le dernier numéro 2 de la draft et Dan Hutchinson. Et un pass rush qui a quand même du mal à être suffisamment efficace. La défense en règle générale, hein, d'ailleurs, du côté de Détroit. Donc, oui, il va falloir vraiment procéder, peut-être pas forcément le head coach, mais je pense que d'ici la fin de saison, il va vraiment falloir procéder à des modifications là-dessus, parce que malheureusement, le coaching staff a une part un peu trop importante du côté de Détroit et au détriment de l'équipe.
Là, ils ont déjà fait sauter le coach des defensive backs, c'est le premier petit...
Oui, c'est ça, oui.
32 pour les Browns, 13 pour les Bengals. Domination totale des Browns dans le match du lundi soir. En défense d'abord avec 5 sacs et une interception sur Joe Burrow. Toujours pas de jeu au sol pour Cincinnati. Et puis en attaque, Nick Chubb, Amari Cooper qui se sont très très bien montrés. Est-ce que c'est les Browns qu'on attendait complet, Raphaël?
Ouais, ça y ressemblait effectivement, avec une défense bien plus efficace sur le pass rush que ce qu'on avait vu jusque-là. Et une attaque qui repose sur 2-3 skill players. Quand ils arrivent à installer ce jeu au sol et Nick Chubb, tout de suite, ça devient plus compliqué. Amari Cooper est peut-être pas le numéro 1 qu'on attendait qu'il soit, mais mine de rien, ça reste un coureur de tracé très, très performant. Et on le voit sur son touchdown, c'est vraiment par sa capacité à courir le tracé qui se démarque dans la end zone et Brissett n'a juste qu'à lui mettre le ballon entre les mains. Donc oui, ça ressemble à cette équipe-là qui pourrait avoir un meilleur bilan s'ils n'avaient pas perdu un peu bizarrement contre les Jets, notamment avec ce scénario un peu incroyable. Ouais, c'est comme tu dis, voilà, c'est ce Cleveland-là qu'on attendait. On verra ce que ça donne avec un autre quarterback avec plus de potentiel, mais ça y ressemble complètement, c'est ce genre de prestation.
Maîtrise de bout en bout, Greg, pour les Browns.
Oui, c'est vrai que pour le coup, là, je rejoins un petit peu par rapport à ce qui avait été dit sur Détroit tout à l'heure. Là, au moins, on n'a pas craqué, on ne s'est pas écroulé du côté de Cleveland, parce que c'est vrai qu'ils avaient en effet cette fâcheuse tendance depuis le début de la saison à aller se filer des rencontres en cours de route. Là, ils ont parfaitement aussi... Alors, vous parlez un petit peu de l'attaque à raison, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne ligne offensive depuis le début de l'année. Jacoby Brissett a plus ou moins limité les pertes de balles, hein, notamment, même s'il y a un fumble perdu, il me semble, dans le lot. Après, le niveau notamment de Nick Chubb depuis le début de la saison, je pense que c'est pas à rappeler. Mais ouais, la défense de Cleveland sur ce match-là, en effet, a totalement annihilé une des plus grosses attaques en tout cas de ces dernières semaines, hein, parce qu'on parle quand même de la meilleure attaque, la deuxième meilleure attaque à la passe depuis le début de la saison en termes de yards. Je crois qu'il n'y a que Miami qui est devant. Et sur ce match-là, globalement, ils ont extrêmement bien muselé. Il y a 25-0 à la fin du troisième quart. Donc, très clairement, du côté de Cleveland, on a fait le travail. On a remis de la pression sur cette ligne offensive de Cincinnati. On a fait en sorte, du côté de Cleveland, de faire en sorte que s'il y avait quelques motifs de, on va dire, pour rassurer Cincinnati ces dernières semaines, de faire en sorte de les exposer de nouveau.
Alors justement, voilà, je trouvais Greg trop calme. Zach Taylor, Greg.
Bah, erreur de casting.
Je pose même pas de questions, voilà, que je dis Zach Taylor, bim. Non mais 5 sacs, la ligne offensive qui progressera visiblement jamais.
Bah, qui progressera jamais, je sais pas, mais là, en l'occurrence, sur ce match-là, encore une fois, c'est un match en prime time, c'est un match contre une équipe de Cleveland qui, clairement, si elle perdait ce match, était au fond du trou, hein, parce qu'il passait avec un bilan de 2-6. On sait que Cincinnati, il me semble, ces dernières années, d'ailleurs, il me semble que depuis que Zach Taylor est là, c'est pas flamboyant contre Cleveland, hein, il me semble qu'ils ont perdu deux fois l'année dernière contre les Browns.
Vas-y. Je me permets de te poser la question parce que j'écoutais nos confrères de Randy NFL ce matin et qui disaient justement la ligne offensive de Cleveland de Cincinnati, elle progresse pas depuis 4 ans. La ligne offensive, c'est quand même plutôt pas mal du coaching, donc ça commence à être la faute de Zach Taylor. Je me disais, c'est du pain béni pour Greg, je vais le lancer.
Ouais, c'est ça. Non, mais peut-être. Après, encore une fois, là c'est pareil, je suis désolé, je vais rappeler des évidences, mais c'est vrai que quand ça fonctionne pas, ça me saute un petit peu aux yeux. Quand ça marche aussi peu en attaque, t'as le droit de changer ton fusil d'épaule. Joe Mixon n'est pas excellent depuis le début de la saison, mais ne lui donner que 8 ballons quand tu vois que l'attaque aérienne, aussi bonne qu'elle était depuis le début de la saison, même si on sait qu'il manque Jamar Chase, est globalement muselée et que ton passe, et que ton passe pro, pardon, a du mal à contenir les assauts adverses de nouveau, tu as le droit éventuellement d'essayer de tenter une autre stratégie. Et là, encore une fois, on reste sur un côté peut-être un peu trop dogmatique qui a clairement posé des problèmes à Cincinnati sur ce match-là. Alors voilà, encore une fois, au-delà de la blague, je ne sais pas si la responsabilité de Zach Taylor est directement imputable sur ce genre de rencontre, mais malheureusement, on ne peut pas dire que le coaching staff, là aussi, n'a pas joué un rôle au détriment de l'équipe face à une équipe de Cleveland qui a bien joué sa partition, notamment en défense.
Raphaël, en un mot, gêné, inquiet, est-ce qu'il y a une tendance pour ces Bengals, surtout sans Jamar Chase ?
Inquiet, ouais, moi, personnellement inquiet, je l'étais déjà avant le début de saison, et ça, ce match-là fait tomber dans tout ce qui m'inquiétait, la ligne offensive. Une attaque qui ne mise que sur l'explosivité et les big plays. Jamar Chase, son roi dans ce domaine-là, n'est pas là. Et tout de suite, bah, ça devient plus compliqué. Burrow, on le sent moins précis, plus en difficulté dans ses lectures, parce que il n'a pas le premier regard vers Chase, et du coup, bah, ça change de point. Moi, la prestation en première mi-temps offensivement est catastrophique par rapport au talent qu'il y a dans cette équipe. Mixon, Burrow, Boyd, Higgins, en première mi-temps, ils sont franchement nuls. Donc ça m'inquiète grandement pour la suite.
Jets 17, Patriots 22. On ne va pas appeler ça un match de quarterback. Mac Jones a été saqué 6 fois. Il a eu du mal en première mi-temps avant de finalement trouver un peu de rythme en seconde partie de match pour permettre à son équipe de mener 22-10. Et puis la défense des Patriots a intercepté Zach Wilson 3 fois. Et alors je pense qu'on peut commencer par ça parce que on a probablement 3 prétendants pour les 3 interceptions les plus abominables de la saison. Là. Wilson termine à 20 sur 41. Il y a eu 41 passes pour 15 courses du côté new-yorkais. 355 yards pour lui, 2 touchdowns et 3 interceptions. Raphaël est déjà mort de rire en pensant à ses interceptions.
Il est éclaté, les gars. Franchement, désolé de le dire et de prendre ce ton-là. Je suis désolé, ça fait comptoir et tout, mais honnêtement, c'est pas possible. C'est pas possible de faire des passes pareilles. Voilà, New York, c'est con, hein. Il y a une très belle défense, encore une fois, qui fait vraiment un taf assez incroyable pour garder l'équipe dans le match. Mais ça y est, il n'a plus Brice Hall, il n'y a plus de jeu de course, et là, ça devient « Ah bah, vas-y, Zach, porte l'équipe !» Et là, bah, ça porte l'équipe, quoi.
Moi, j'avoue que j'ai une mention spéciale quand même et particulière pour cette interception où il sort de la poche, il va vers la touche et il dit « Bon, allez, je vais l'acheter en touche. » Oh, puis non, je vais la donner à Devin McCourty. Il est là. Il a l'air sympa.
Ah non,
il a même pas réussi à lancer le ballon dehors. Il l'a mise dans les mains d'un défenseur. On sait même pas pourquoi.
Vous avez compris ce que j'en pense. Du coup, je laisse aux autres s'exprimer.
J'espère qu'on aura en titre du podcast Raphaël 2. Désolé, les gars, il est éclaté.
Bon, je vais peut-être faire un petit extrait avec un audiogramme, oui, et tout. Là, on n'en fait jamais, mais bien, là, ouais, c'est peut-être le moment.
On rabille Greg pour la rétro. Je pense que ce serait bien qu'on mette un peu Raphaël honneur sur ce genre de sortie bien pensée.
Après, là, il a quand même moins de chances que ça vienne le hanter. Hein.
a priori, ça va, ouais. Je prends pas trop de risques, a priori.
Hein, on va noter, hein, c'est l'épisode 531. On le ressortira si jamais Zach Wilson est champion un jour avec un MVP, ouais, du Super Bowl. Mais, je suis pas sûr que ce soit celle qu'on va ressortir un jour.
Non, je pense pas.
Non, mais Greg, il voit des fantômes, il est sous pression. Alors, il n'est pas aidé par le sol, il n'est pas aidé par plein de choses, mais tu peux pas faire ça, quoi.
Alors, Zach Wilson.
Greg, il vient d'enfiler sa robe noire avec son petit col blanc. Il a ajusté le col, là, tu sais, en mode avocat. Il a fait... Alors.
J'interjette appel. Non, blague à part. Non, ce que dit Rav, globalement, alors, je n'utiliserai pas les mêmes termes. Mais oui, malheureusement, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait l'année dernière, c'est-à-dire malheureusement des failles mentales qui rappellent un peu trop des anciens quarterbacks déjà vus du côté des Jets, et ce qui peut sembler un petit peu rédhibitoire. Maintenant, une fois qu'on a mis ce focus-là sur Zach Wilson, parce que je ne vais pas défendre l'indéfendable, encore une fois, il y a des interceptions qui sont dommageables, surtout quand tu termines à 5 points sur un match qui restait malgré tout à ta portée et que tu mènes à la mi-temps de mémoire. Parce qu'il s'écroule assez allègrement au retour des vestiaires. Pour moi, si je dois mettre une robe, ce serait plutôt à charge de nouveau, parce que visiblement, chez les Lafleur, il va falloir parler stratégie cette semaine, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis cette saison et je persiste et signe. Alors, ça avait encore moins de sens en début de saison parce qu'on faisait de lancer Joe Flacco à outrance. Là, c'est ton quarterback titulaire, donc pourquoi pas. Mais dans un match où tu vois que ton quarterback et pas forcément efficace ou perd les pédales, tu as le droit d'alterner un petit peu ton jeu. Parce que certes, Brice Hall n'est pas là, mais c'est peut-être pas pour ça que ta ligne ne peut pas libérer des brèches, que Michael Carter ne peut pas éventuellement se prendre un peu plus de responsabilité. Et là, tu as encore un jeu qui penche allègrement d'un côté, et ça fait au moins trois fois que je vois ça depuis le début de la saison, et que ça se termine trois fois par des défaites. Donc, je veux bien que Mike LaFleur, le coordinateur offensif, ait envie de se dire « on va tester ce style de jeu-là », sauf qu'au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, joue un style de jeu équilibré. Si tu ne gagnes pas à la fin, bah, tu ne gagnes pas à la fin, mais partir dans un côté buté en te disant « aujourd'hui, je veux que ce soit mon quarterback et notamment Zach Wilson qui fasse la différence avec les problèmes et les failles qu'on connaît de lui », pour moi, c'est du suicide. Donc, c'est dommage pour les Jets parce qu'ils avaient une belle occasion de finir à 6-2 à l'issue de ce match-là et ils se tuent un petit peu tout seuls en exposant en plus leur quarterback de cette manière-là.
Oui, parce que Wilson, en fait, il permet à Mac Jones de passer une meilleure semaine, hein, je pense. Parce que Mac Jones, il a plutôt été aidé par le plan de jeu. Ils n'ont pas tenté des choses folles, mais Jones est à 0 sur 4 et une interception quand il est sous pression. Il ne fait pas un match fabuleux. Il est beaucoup aidé, lui, pour le coup, par Ramondre Stevenson, qui fait un gros match à la fois au sol et dans les airs. Et Jacoby Myers, qui capte 9 ballons avec un touchdown. Donc, on oublie la polémique au poste de quarterback pour les Patriots. Mais ça reste pas non plus le truc le plus rassurant du monde pour Mac Jones sur ce match.
Non, ils sont pas très concrètement, oui, comme tu dis, là, c'est la recette de beaucoup d'équipes en NFL, en tout cas de certaines bien identifiées. Du côté des Pats, voilà, c'est du jeu au sol et de la défense. Et je trouve que la défense, depuis le début de la saison, on n'en parle pas suffisamment, mais je trouve que vraiment, elle fait un gros, gros taf malgré tout. Alors, c'est sûr que là, oui, il y a eu un petit peu de cadeau, on le disait, de la part du quarterback adverse, mais en tout cas, ils arrivent malgré tout à faire front et à jouer sur leurs armes, avec en plus quelques absences sur la ligne offensive. Donc voilà, tout n'est pas rassurant sur le poste de quarterback. On sait que de toute façon, sur le poste de receveur, ils n'ont pas vraiment de star établi et ça ne va pas changer tout au long de cette saison. Est-ce que Mac Jones est à 100%? Ça, c'est une autre question qu'on peut continuer à se poser. Certes, on ne l'a pas sorti pour remettre Bélizapi, mais la question mérite d'être posée aussi. Mais il va falloir que ce soit vite le cas pour qu'on ait affaire à une équipe des Pats un peu plus complète et plus compétitive dans la FCS.
Texans 10, Titans 17. Raphaël, je t'ai vu dire, les Texans sont la pire sortie offensive que j'ai jamais vue pendant ce match.
C'était pas ces termes. Il me semble que le terme, c'était Houston, c'est catastrophique.
Ah ouais, j'avais cru dire, c'est le pire truc offensif que j'ai vu.
Là, tu m'en parles, tu sais, je suis ce vétéran du Vietnam qui a des flashbacks de ce qu'il a vécu, quoi. C'est genre.
Alors, je précise pour nos auditeurs, Houston a gagné 161 yards en attaque sur tout le match, dont 90 yards sur le dernier drive. Ça veut dire qu'ils avaient gagné 71 yards avant.
Ah non, mais c'était catastrophique. Il y a le premier drive de mémoire où il marque un field goal. Ou le deuxième peut-être.
Premier interception, deuxième punt, troisième punt, quatrième field goal.
Tellement le temps paraissait interminable, je me mélange.
Et pourtant, il mène au score hein, pendant un moment, non?
Il mène 3-0.
Ouais, oui, il mène au score. Ouais. Mais ils arrivent quand même dans le deuxième quart à mener 3-0, c'est dire premier, la qualité de ce match, messieurs.
Ouais, ouais, non, c'est. Effectivement, là, Alors, autant l'ami Lovie Smith fait des choses pas inintéressantes avec cette défense à Houston, hein, qui franchement, malgré un manque de talent certain, est plus que correct et permet finalement à Houston, tu vois, de pas être trop largué dans un match, d'avoir des opportunités pour rester dedans. Mais alors, l'attaque, c'est franchement, il y a rien. Il y a juste rien de le coordinateur offensif. Je sais pas ce que travaille l'équipe en semaine. Mais c'est juste pas possible, en fait. C'est une catastrophe absolue.
C'était un match infernal, en fait.
Ah non, mais il faut bazarder tout le monde en attaque l'an prochain.
Ce qui est bien, c'est que le principal efficace, on va dire statistiquement, sur ce match, c'est Brandin Cooks, qui apparemment est dans les méga rumeurs de trade avant la deadline.
Mais j'allais dire, tu vois, on a dit qu'on enregistrait avant la deadline. On souhaite quand même à Brandin Cooks d'être parti au moment où vous aurez écouté. Ceci étant dit, tu disais il n'y a rien en attaque à Houston. Sur ce match, il y a juste Derrick Henry du côté des Titans parce qu'il a 219 yards, il a 32 courses. Et alors, juste pour rigoler, hein, Davis Mills est à 152 yards, Malik Willis est à 55 yards. Donc Derrick Henry a plus de yards que les deux quarterbacks du match cumulés.
Non, mais il n'y a rien. Mais au moins, reconnaissons aux Titans, on critique là depuis plusieurs matchs les coachs qui ne savent pas avoir de plan de jeu, qui se perdent à gauche, à droite. Reconnaissons au moins aux Titans d'avoir un plan de jeu, et c'est pour ça que j'ai titré d'ailleurs le résumé du match « Joue là comme Tennessee ». C'est clair, c'est net. Tennessee, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils donnent le ballon à Derrick Henry, ça court, et ils serrent le match en défense. Et on ne se prend pas la tête à imaginer qu'on pourrait obtenir des choses de je ne sais pas qui dans les airs. Au moins, c'est
Attends,
clair, c'est net.
Malik Willis, 6 sur 10, 55 yards, une interception, une seule passe lancée après la pause. Ils sont à 45 courses pour 10 passes.
Ouais, bah les deux drives sur lesquels Tennessee marque des points, c'est deux drives où ils ne font que courir. Ils ne font que ça.
On est en 1934.
Mais
quoi,
j'ai pas vu une stat où sur les 5 derniers matchs contre Houston, Derrick Henry fait quasiment tout le temps 200 yards.
Si, ouais, il leur marche dessus, il leur marche dessus depuis deux années maintenant. Non, mais très bien. Après, voilà, comme tu dis, je pense que ta question un peu là-dessous aussi, Alain, c'est est-ce que l'équipe des Titans, c'est pas trop limité in fine pour aller très loin? Je pense que si, malgré tout, parce qu'il y a quand même peu de chances que Derrick Henry arrive à faire 200 yards par match toute la saison. Donc ça va être compliqué pour la suite. Mais écoute, là, ils ont le quarterback rookie, ils ne veulent pas le mettre en difficulté, ils ne le font pas lancer, il y a Henry qui court, bah voilà, ils ne se prennent pas la tête. Hein.
Oui, parce qu'ils sont à 5-2, mais ils ont battu Raiders, Colts, Commanders, Colts, Texans.
Oui, mais ça va suffire pour prendre cette division. Hein.
Oui, bien sûr. Bah, c'est possible. Greg, Malik Willis, c'est un rookie, donc je me tourne vers toi. Satisfait de cette première?
Ouais, avec un tel échantillon, forcément, c'est facile de tirer des conclusions. Écoute, le plus important pour Tennessee, c'est d'avoir gagné en effet avec un quarterback aussi peu utilisé. Bon, il a quand même trouvé moyen de se faire intercepter en cours de route, mais ça, malheureusement, on l'a vu avec Malik Willis, hein, qu'il y a un petit peu de déchet en termes de lecture. Voilà, on le sent pas du tout en confiance dans le domaine aérien. Je pense que c'est un quarterback qu'on voulait sans doute couvé dans un premier temps et qu'on est un petit peu obligé de lancer forcément de par la blessure de Tannehill. Mais oui, après, de toute façon, je suis pas sûr que en remplaçant Tannehill par Willis, je pense que Mike Vrabel s'est dit de toute façon, on s'en fout. Le plan de jeu, ce sera celui-là. Et du côté de Tennessee, c'est presque si on rentre pas avec l'escouade offensive en mettant une énorme flèche jaune au-dessus de Derrick Henry en disant regardez, vous le voyez le 22, on va lui donner le ballon, maintenant essayez de le stopper. Donc voilà, à partir du moment où on sait ça et que Derrick Henry est pas stoppable, ça continue à tourner, mais je suis d'accord avec Raph par rapport à ce qui a été dit. Malheureusement, dans l'optique de janvier, parce qu'en effet, pour Tennessee, ça commence à sentir bon dans la division, ça va sans doute être aussi léger que ce qu'on avait pu voir la saison dernière, en tout cas ce qui les avait amenés à sortir dès leur premier match de playoff.
Et enfin, amis du beau jeu, nous terminons avec le match entre les Jaguars et les Broncos. 17 pour les Jaguars, 21 pour les Broncos, match qui avait lieu à Londres. Et heureusement que Londres est plutôt une jolie ville avec pas mal de choses à visiter et que les gens ne venaient peut-être pas que pour ça parce que c'était pas un sommet de football américain. Les Broncos ont marqué à 1:43 de la fin pour passer devant. Ils ont marqué au sol avant d'intercepter Trevor Lawrence pour garantir la victoire. Denver a fait un début de match horrible avec 3 punts et une interception, mais ensuite ils ont eu des drives de 75, 98 et 80 yards. Y a-t-il de l'espoir pour Russell Wilson, Raphaël?
Écoute, je sais pas, ça va demander à être confirmé, mais en tout cas c'est un peu mieux offensivement. Et la bonne nouvelle quand même depuis 3 semaines du côté Denver, je trouve, c'est Greg Dulcich, le rookie au poste de tight end qui s'affirme comme un tight end numéro 1, comme une vraie cible fiable. Et d'ailleurs, Russell Wilson s'en est encore pas mal servi. Hein. C'est, sur ce match, c'est son meilleur receveur en termes de gains, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Donc, tant mieux. Il y a au moins ce côté-là. Après, voilà, on a tellement vu de mauvaises choses depuis le début de la saison que ce n'est pas sur cette sortie-là où il y a 3 bons drives qu'on va tout de suite se dire « ça y est, la table est renversée et c'est parti, attendons ». Mais oui, c'était un peu mieux.
Greg Dulcich, joueur du troisième tour. Greg, c'était un peu mieux, mais on ne s'emballe pas, on en reste là-dessus.
Non, heureusement qu'ils ont une bonne défense du côté de Denver, parce que c'est toujours la même chose, ça les maintient aussi dans les matchs pendant un moment, et pour pouvoir éventuellement leur permettre derrière de pouvoir bonifier tout ça. Donc, pour répondre à ta question, ça reste aussi conditionné à ce qu'on va faire de Bradley Chubb durant la deadline. Hein, encore une fois, à l'heure où on enregistre, on ne le sait pas encore officiellement. Donc voilà, manifestement, ils étaient prêts à le brader en cas de défaite. Donc là, avec une victoire, on va voir si ça change l'optique pour Nathaniel Hackett et le front office. Mais oui, globalement, on voit qu'avec Denver, on pourrait avoir un petit peu mieux. Après, c'est sûr qu'il y a tellement de limites niveau coaching staff, niveau blessure en ce moment, que voilà, offensivement, il va falloir gagner un petit peu plus en consistance, mais la défense est là depuis le début de la saison.
Jacksonville laisse échapper ce match malgré un gros Travis Etienne, 24 courses, 156 yards, un touchdown. Il a aussi pris 3 ballons dans les airs pour 6 yards. Trevor Lawrence n'y arrive toujours pas. Il se fait intercepter en fin de match. 2 interceptions au total. 133 yards seulement sur 31 passes lancées. Greg, sur la première action du drive, en plus, il se fait intercepter. Là, il n'y a plus l'excuse Urban Meyer. Là, ça commence à chauffer. Sa première interception dans le match est assez vilaine aussi, en plus. Hein.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Je ne sais pas si lui, il est éclaté. Il faudra demander à Raph. Mais... mais c'est sûr que malheureusement, non, il n'y a rien qui nous... Il y a cette espèce de trompe-l'œil qu'on a eu en début de saison avec ses prestations abouties, en effet, aux Chargers. Depuis, il n'y a que des défaites. Donc, voilà, je veux bien éventuellement que cette équipe soit mal construite, mais c'est aussi au quarterback supposément générationnel de réussir à élever tout ça. Et manifestement, bah, on ne le voit pas. Il n'arrive pas à apporter cette énergie, ce dynamisme, cette précision nécessaire pour faire des différences. Donc, voilà, malheureusement, tant que Jacksonville n'aura pas réussi à réparer ou en tout cas à bonifier ce que peut apporter sur le papier Trevor Lawrence, bah, on aura une équipe de Jacksonville, en effet, qui restera extrêmement moyenne, voire pire, puisque c'est peut-être à l'heure actuelle, d'un point de vue contenu, une des pires équipes de conférence américaine.
Raphaël, on commence à regarder vers Lawrence parce que, tu vois, on parlait d'entourage pour Tagovailoa. Bah, là, Etienne fait son match. Evan Engram et Kirk, par exemple, ne sont pas indigents. Donc, oui, on commence à regarder le quarterback, là.
Oui, forcément, on peut regarder vers lui. Comme tu dis, hein, ses interceptions sont vraiment pour sa pomme en plus. Il y en a une notamment qui il place le ballon au seul endroit où le défenseur adverse peut l'avoir finalement, donc c'est quand même compliqué. Ouais, c'est pas convaincant du tout. Lawrence, dans ses lectures, c'est lent. Il y a Greg parlait de rythme, mais je suis plutôt d'accord. Je trouve on voit quasiment pas de match ou de série où Lawrence va enchaîner des passes rapidement. C'est mécanique, c'est précis. Je sais pas, tout a l'air d'être un peu dans la compliqué, dans la difficulté. Donc, éclaté peut-être pas, mais clairement cette QV-là de quarterback est un peu, met du temps à donner des signes de comment dire, des signes de
régularité.
C'est compliqué, hein. Clairement là, faut que Doug Peterson trouve la solution parce que ça va pas, clairement.
Et c'est comme ça, messieurs, qu'on va terminer le 531 du podcast Touchdown Actu. Merci à vous de nous écouter. On vous rappelle tout ce qui va se passer au niveau de la trade deadline. S'il se passe des choses, évidemment, on en parlera dans l'émission de demain avec Victor Roulier, où on parlera aussi des trophées de mi-saison, de l'affiche entre les Buccaneers et les Rams et de plein d'autres choses, évidemment. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des évaluations sur les applis podcast. Je le dis pas assez souvent, évaluations, commentaires. N'hésitez pas, ça nous permet de monter dans les classements. Donc, c'est toujours bienvenu. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee. On remercie cette semaine Guillaume Priol et Chakma420 qui se sont ajoutés à la liste de nos soutiens. Pour nous suivre, Twitter, Facebook et TikTok, c'est @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @YellowRadioSa pour Greg et @Raphaël_TDA.
C'est ça.
Pour Raphaël sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto. Meilleure recette en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.